Nous offrirons des fleurs et nos sœurs partiront. Les jardiniers abandonnent la campagne et la lumière nos mains endormies. J'ignore si nous parviendrons à nos fins. Voici des livres et voici nos amis. Elles portent des robes qui s'ouvrent toutes seules à la tombée de la nuit. On les soupçonne au travers. Ils ressemblaient à tout le monde. Ils forcèrent la serrure. Ils remplacèrent l'objet perdu. Ils amorcèrent les fusils. Ils mélangèrent les liqueurs. Ils ont semé les questions à pleines mains. Ils se sont retirés avec modestie en effaçant leur signature. Nous côtoyons les bords de la colère. Les seuls écueils sont des empires perdus. Votre ennui s'endort au fond de la mer. Nous naviguons avec adresse et le vent nous suit avec docilité. Extrait de quelques écrits et quelques dessins de Clarisse Juranville, écrit en 1927 par Paul Nouget. Formation scolaire et académique de Paul Nouget mérite d'être racontée. Elle est assez singulière. D'abord, il n'a pas été à l'école primaire. Ce sont ses parents qui lui ont enseigné ce qu'il fallait savoir et malgré ce fait-là, il sera un brillant élève lorsqu'il sera au collège. Et même, il sera au point de terminer ce collège bien plus vite que prévu et de se lancer à ce moment-là dans des études universitaires de biologie qu'il mènera de 1910 à 1913, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Il suit parallèlement des cours de biologie à la faculté des sciences sociales, économiques et financières de l'Université Nouvelle de Bruxelles. C'est une, disons, une dissidence de l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles, qui était considérée comme trop doctrinaire par Émile Van der Velde, et donc qui était le fondateur de cette Université Nouvelle de Bruxelles dès 1894. Et y enseigneront quelques professeurs qui ont des idées assez révolutionnaires, entre autres au niveau de l'enseignement. C'est le cas entre autres de Ferrer, dont le monument orne la pelouse en face de l'Université Libre de Bruxelles. Et puis surtout, en tant qu'élève libre, Paul Nouget suit les cours de deux professeurs qui l'influenceront particulièrement. Il s'agit d'une part du cours de cosmographie de Paul Reclus et le cours de biologie générale de Léon Guinet. Ce sont tous deux des militants anarchistes déclarés et ils auront une influence aussi sur la pensée de Nouget, certainement après la Première Guerre mondiale, et sur cette liberté qu'on retrouvera par la suite chez les surréalistes. Les circonstances, les médiocres circonstances de ma vie ont voulu que tout ce que j'ai fait de valable l'ait été sous le signe de la subversion, de l'action délictueuse, écrira Nouget. Alors, il faut encore vous notez une petite anecdote de son enfance. Je vous ai dit qu'il n'avait pas été à l'école primaire Et c'est lors de son entrée au collège, donc vers l'âge de 12 ans, qu'on remarquera qu'il est furieusement myope. Il n'y voit pas clair et on, de façon à lui permettre de suivre les cours normalement, on lui achète des lunettes qui le singulariseront tout le restant de sa vie. On le voit dans les tableaux, dans les portraits faits entre autres par Magritte avec de grosses lunettes d'écaille. Mais surtout pour Nouget, cela va lui apporter un nouveau regard sur les choses. Il n'avait par exemple jamais remarqué qu'il y avait des étoiles dans le ciel et cela va véritablement, le fait de porter des lunettes, de découvrir un tas de choses, va véritablement influencer sa façon de voir les choses, de décrire les choses, et il tâchera toujours par la suite de montrer une autre vision sur des choses qui sont éventuellement assez communes. On demande un jour à Nouget pourquoi il écrit. Il répond, mais pour déranger le lecteur, pour troubler ses petites ou ses grandes habitudes, pour le livrer à lui-même. Nouget est diplômé ingénieur chimiste en juillet 1913. En 1915, il épouse une jeune musicienne, Paule Deschamps. Il s'établit à Etterbeek-Puyahoderghem. Et en 1919, il entre au laboratoire médical qui existe rue Belliard et où il passera toute sa carrière. Il est un brillant chimiste et biologiste. Et on trouve que c'est un petit peu dommage qu'il ait consacré surtout la deuxième partie de sa carrière dans ce laboratoire, surtout à faire des examens relativement quelconques. Mais au départ, il a l'occasion de faire des examens médicaux quand même assez poussés, presque au même titre qu'un médecin. Et c'est cela qui influencera le récit qu'il fera dans la chambre au miroir, série de portraits de femmes. À noter que Nouget séparera toujours ses activités littéraires ou artistiques d'une part et ses activités professionnelles d'autre part. Seuls quelques-uns de ses collègues savent qu'il est également féru de culture et de littérature, mais en opposition, dirais-je, il y a aussi quelques personnes qui le savent qu'il a ce travail rémunérateur. La chambre au miroir dresse donc une série de portraits de femmes qui se dévêtent dans un cabinet médical. Olivier Smulders note ceci, le regard presque entomologique que porte le narrateur sur ces femmes qui se dénudent devant lui, le détour froid et pourtant équivoque par lequel il s'attache à rendre compte du plus petit détail de leur corps, confère au texte une étrangeté, une violence hors du commun. Nouget semble y avoir naturellement trouvé cette voie nouvelle qu'il cherche pour écrire l'érotisme en dépit de ce qu'il appelle la pauvreté du vocabulaire de l'amour, soit par exemple la 14e de ses visiteuses. Elle a 14 ans, mais semble en avoir 18. Forte, formée et vêtue comme une femme, blonde, rougeoyante, sotte, docile. Il faut lui faire enlever ses vêtements pièce à pièce, ce qu'elle fait sans résistance. Dessous très soignés, qui ne sont pas de son âge, assez mystérieux, les seins paraissent allongés mais droits, au mamelon petit. Ils sont presque enveloppés par des auréoles immenses, vineuses. Elle retire son cachex vert pâle, ventre sans lourdeur, très blanc, pubis accentué comme on le voit aux petites filles, mais des poils courts et sombres masquent la fente. Elle se présente de face. La ceinture a tracé partout de profonds sillons rouges. Elle n'a pas d'odeur, sa voix est rauque. C'est le mécanisme même de cette chambre au miroir que Nouget paraît définir lorsqu'il note ailleurs « J'essaie de surprendre ici la construction érotique quand elle se veut pousser à l'extrême, à la pureté. Il faut renoncer alors à la transposition, à la suggestion voilée. L'expression tend à la rigueur de la description scientifique. » À cette observation clinique, il superpose des notations personnelles, tantôt « punctum », bartésien, par lequel certains de ses visiteuses l'ont personnellement atteint, tantôt lecture imaginaire de ce qu'elle pourrait être. La 17e, tous les ongles, ceux des mains, ceux des pieds très fins étaient teintés d'un rouge sanglant. Elle était toute baignée de parfum, très maigre, racée. La 32e, mais quand elle se rhabille, soudain, elle m'offre tranquillement son torse nu. Ses mamelons forts et roses, et la naissance du nombril délicatement formé. Elle doit crier si elle jouit, crier des injures, ou s'enfermer dans un silence noir. La 6e, jeune fille, employée de bureau, assez vive, docile, sein rond, petit, un peu lourd, mamelon transparent, rose, le vrai corail de la littérature. Lorsqu'il évoque la science dans ses textes, note encore Smulders, c'est pour se référer aux rêves de la science toute puissante, aux beautés de la mathématique telles que les a chantées l'autre et Hamon, aux mystères de la logique à propos desquels les problèmes magrittiens viendront apporter bientôt d'inquiétants éclaircissements. Les notes rassemblées sous le titre « L'invention de la force », par exemple, cherchent à établir les correspondances souterraines qui existent entre le langage mathématique et le langage ordinaire. Pour Nouget, la science nous fournit d'abord l'image d'une certaine perfection esthétique, telle qu'il la rencontre dans le jeu d'échecs. Le plaisir esthétique, au fond, le plaisir de la solution élégante, au sens des mathématiciens, l'économie des moyens, sûreté, précision, démarche difficile à prévoir et dont l'excellence se montre. Essentiellement, le plaisir d'exercer certaines facultés, de les entraîner, de les sentir croître en souplesse et en vigueur comme l'athlète fait ses muscles. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'aura de cesse de tirer parti des formes mathématiques en les appliquant à des éléments poétiques. De même que l'histoire du problème ne trouvera de solution heureuse que dans le sens d'une économie des gestes intellectuels ramenant l'opération au plus petit nombre possible de mouvements simples, ce qui est précisément la seule définition acceptable de l'élégance. On le sait, la mathématique est un langage, note Nouget, donc un moyen d'agir. Nous sommes délivrés par un langage parfait. Mais n'est-ce pas là le propos de la poésie ? La solution heureuse nous délivre de la même façon que le ferait en d'autres circonstances une image peinte, certaines musiques, un authentique poème et aussi à la manière d'un cri, d'une injure, d'un sourire. Eh bien voilà, c'était les frères Guo et l'ensemble Chongqing dans un extrait de l'album Huang. Les soldats de la longue marche est un traditionnel qui était arrangé par un des deux frères et qui fait référence à la longue marche des troupes communistes dans les provinces du sud de la Chine. Donc cette fameuse longue marche qui est l'élément fondateur de la Chine populaire, la Chine communiste. Et on nous raconte dans les notes qui accompagnent ce disque que dans les villages, les habitants accueillaient précisément les combattants de cette armée par des chants. Voilà, c'est beau quand même. Hein. D'ailleurs, la musique adoucit les mœurs, c'est bien connu. Alors, pour changer de genre, parce que sur Radio Air Libre, on a bien changé de genre, je vous propose Anna Domino avec un album qui est très chouette d'ailleurs, qui est très visuel parce que